tout le monde peut croire aux théories de la conspiration, même vous et moi, parce que tout le monde peut commettre des biais cognitifs. On fait tous, d'une manière ou d'une autre, tous les jours des biais cognitifs. Donc, c'est très facile de tomber dans les théories de la conspiration, mais il n'y a pas de profil type.
Lorsque les gens ne sont pas assez informés, ils émettent leurs propres théories et d'autres se font ensuite influencer par ces dernières. C'est propre à l'humain de chercher des réponses afin de combler le manque d'informations quand il existe un doute. C'est ce que nous avons vu récemment avec la COVID. Parce que les gens ne comprenaient pas la COVID, ils racontaient toutes sortes d'histoires. Certaines personnes croyaient que la Chine essayait de tuer le reste du monde. Ils ont aussi accusé d'autres pays et ils ont blâmé les compagnies pharmaceutiques.
Why do you keep calling this the Chinese virus? There are reports of dozens of incidents of bias against Chinese Americans in this country. Your own aide, Secretary Azar, says he does not use this term. He says ethnicity does not cause the virus. Why do you keep using this?
Because it comes from China. It's not racist at all. No, not at all. It comes from China. I have great love for all of the people from our country, but. As you know, China tried to say at one point that it was caused by American soldiers. That can't happen. It's not going to happen. Not as long as I'm president.
Semer le doute, chapitre 4. Au-delà du discours.
Décembre 2019. Le monde apprend qu'une maladie causée par un coronavirus se propage rapidement dans la ville de Wuhan, en Chine. À peine quelques mois plus tard, le SARS-CoV-2 se répand à travers le globe. L'Organisation mondiale de la santé déclare l'urgence de santé publique de portée internationale. Face à la plus grosse pandémie du siècle, le Canada et de nombreux pays à travers le monde instaurent des mesures de contrôle sanitaire d'urgence. Confinement, distanciation sociale, port du masque, la population doit rapidement s'adapter à un nouveau mode de vie. Cette période de changement s'accompagne d'une anxiété généralisée autour de la transmission du virus. Au début de cette crise, les personnes d'origine asiatique ont été accablées par des tensions raciales redoublées. Les personnes qui pouvaient être reconnues comme asiatiques ont rapporté vivre plus d'expériences de discrimination verbale et d'abus physiques dans les espaces publics. Aux États-Unis, le sociologue Russell Jung souligne que la forte augmentation d'incidents haineux rapportés dans les médias a coïncidé spécifiquement avec l'utilisation par le président Trump de l'expression « virus chinois ». Il en vient à la conclusion que le langage politique a une influence importante sur la haine raciale et les violences qui y sont associées. Face aux événements bouleversants de nos sociétés, il y a cette tendance humaine à chercher les responsables, à blâmer l'autre. Il y a aussi ce réflexe, ancré dans l'héritage suprémaciste blanc des sociétés occidentales, d'associer injustement les maladies endémiques à des communautés ciblées comme minorités visibles. Cette attitude peut être alimentée et entretenue par les institutions gouvernementales, mais aussi par les médias. Le choix du traitement de l'information s'avère essentiel pour éviter de tomber dans l'ostracisation d'une communauté face à des maladies qui ne font ultimement pas la distinction de culture ou de couleur de peau. Le concept de panique morale autour des infections exprime bien ces propos. La panique morale est décrite par des épisodes d'inquiétude intense autour d'un groupe ou d'un événement particulier. Les périodes de panique morale ont tendance à émerger et à se dissiper rapidement. Souvent, la panique morale entraîne une réaction généralisée du public à l'égard d'un groupe spécifique de personnes jugées comme déviants ou néfastes pour le bien de la collectivité. La chercheure Gabriella Capuro précise que les paniques morales ne sont pas des épisodes aléatoires et irrationnels. Au contraire, ce sont des moments de tension et de lutte de pouvoir opposant des groupes qui ont des intérêts divergents. Pendant la pandémie, les médias québécois ont contribué à alimenter la panique morale envers certains groupes de personnes méfiantes à l'égard des consignes gouvernementales.
Journal de Montréal. Les Covidios à l'ouvrage. La presse. Les Covidios et nous. Journal de Montréal. Voici 10 exemples marquants de Covidiocie. Journal de Montréal. Au pays des touristata. La presse. Les édentés. Journal de Montréal. Covidio dans un centre d'achat.
L'utilisation de termes péjoratifs, les représentations stéréotypées, l'exagération du nombre d'opposants à la vaccination et aux mesures sanitaires sont toutes des stratégies cherchant à inciter la population à adopter des comportements de prévention. Cette stratégie de clivage peut sembler logique. En réalité, elles sont très stigmatisantes et relaient l'entièreté de la responsabilité sur les individus. Pourtant, il faut se rappeler que la période d'adaptation culturelle face à cette crise était contre-intuitive pour la plupart. L'isolement, la distanciation sociale, le port du masque et la quarantaine étaient des pratiques auxquelles la population a dû s'habituer rapidement. Les consignes des gouvernements comportaient souvent des zones grises, difficiles à interpréter. La population a dû jongler entre diverses difficultés dans un climat de moralisation où chaque personne devait se conformer aux consignes au risque de se faire mettre dans la case « Covidio ». Dans un tel climat, il n'est pas surprenant qu'autant de personnes se soient tournées vers des théories conspirationnistes. Il en va de même avec la crise du sida dans les années 80. Le problème le plus majeur avec les théories conspirationnistes est qu'elles compromettent la lutte au VIH et au sida au même titre que la stigmatisation, le racisme, le sexisme, l'homophobie et la transphobie. Elles détournent l'attention et les ressources nécessaires à l'éradication du virus. Ce climat social délétère contribue à désinformer les populations touchées sur l'importance de la prévention, la nécessité du dépistage et sur la disponibilité du traitement, qui non seulement prolonge la vie, mais qui est un outil majeur de prévention. En se penchant sur la question, le négationnisme du VIH-SIDA mérite qu'on lui porte une attention particulière parce qu'il mine la confiance du public envers la science, la médecine et la santé publique. Mais qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? C'est ça que nous voulons explorer dans cet épisode. Malheureusement, il n'existe pas de recette miracle. Mais on a demandé à nos invités ce qu'elles faisaient dans leur quotidien pour combattre la désinformation. On vous présente des pistes de réflexion qui ont aussi guidé la conception de ce balado.
C'est sûr que ce n'est pas évident de parler à des personnes conspirationnistes lorsqu'ils sont dans leur conspiration. Mais ça n'enlève pas qu'on peut avoir un dialogue, qu'on peut avoir une discussion dessus.
Marie-Mé Chrysostome, coordonnatrice à la mobilisation et aux soins communautaires chez GapVie.
Donc moi, ce que j'aime faire en général quand ça arrive, c'est des personnes que j'aime vraiment écouter pour savoir vraiment c'est quoi le fond de leur pensée. Parce que oui, en dehors de dire « oh oui, c'est le gouvernement », mais c'est quoi tes faits? C'est quoi, sur quoi tu te bases? Sur quelle revue scientifique? Parce que c'est bien beau de dire à un certain moment « oh oui, c'est le gouvernement ». On peut accuser le gouvernement de tous nos bobos, de tous nos maux, mais à un certain moment aussi, ce serait la même chose que quand quelqu'un te dirait « Oh non, mais le COVID n'existe pas, c'est autre chose. » Mais sur quoi que tu te bases? Donc, quand la personne me donne des faits concrets sur ce qu'elle pense, là, on peut avoir une discussion, mais... Pour moi, je dis ça ainsi, quand quelqu'un, il a sa théorie conspirationniste et qu'il te dit « mais non, mais c'est le gouvernement », tu n'as rien vraiment à tirer parce qu'il reste sur son impression d'une situation et ne va pas sur les faits en tant que tel. Il n'est vraiment pas cartésien.
Les gens qui sont dans le conspirationnisme, ce qui est important pour eux, ce n'est pas les faits, c'est l'histoire, c'est le narratif dans lequel ils sont entraînés. Ils se font des autofictions. Alors, dans le contexte où on leur dit que moi, je fais partie d'une institution, je suis payé par le gouvernement, donc je les méprise, ben, ils vont chercher à me provoquer, à m'amener dans un discours que moi, j'appelle binaire émotionnel, hein, eux et nous, et à me faire sortir de mes gonds pour que je les envoie chier, pour que je leur dise ben, « t'es un minable, tatata ». Et à ce moment-là, ben, je suis descendu à leur niveau. Je suis plus au niveau de la science, justement, je suis au même niveau qu'eux, au niveau des émotions. Et là, ben, j'ai perdu la partie, entre guillemets. L'exemple que je prends toujours, je reviens toujours à un exemple de prof, là. Si j'ai un étudiant en classe qui me contredit, puis je dis « t'es bien niaiseux », pensez-vous qu'un jour, je vais pouvoir y apprendre quelque chose?
Moi, oui, la conversation, elle peut se faire, elle peut être liée, mais je sais où je vais m'arrêter, où je vais aussi continuer à pousser, parce que c'est quand même un apprentissage pour chacun d'eux. Je peux apprendre de la personne aussi, mais la personne peut aussi apprendre de moi. Et peut-être qu'on peut se changer les idées quand on finit par discuter. Donc, mon approche, elle est toute simple, je t'écoute, et puis on peut discuter à partir de là.
Martin Geoffroy a souvent été confronté à des discussions difficiles avec des groupes radicaux. C'est notamment arrivé lorsqu'il avait organisé un colloque sur le populaire groupe de pression d'extrême droite nommé La Meute.
En 2018, on avait fait ici un colloque sur l'extrême droite et il y avait 30 membres de La Meute qui s'étaient pointés pour me chahuter parce que je faisais une conférence sur eux. Et puis nous, en fait, on ne les avait pas confrontés, on avait refusé. Ils cherchaient une confrontation, justement, en nous chahutant, et on les avait endurés toute la journée. Puis ils venaient au micro, puis ils ne posaient pas vraiment des questions. Ils nous disaient qu'on était dans le champ, puis tout ça. On était super polis, puis on ne les a pas mis dehors. Et 6 mois plus tard, il y a 6 personnes de La Meute qui m'ont contacté, puis qui m'ont dit, bien, vous aviez raison, ça fonctionne comme une secte, on est sortis maintenant, puis on s'en rend compte. Donc, je leur ai souvent demandé, qu'est-ce que j'ai fait cette journée-là? Parce que je ne les ai pas debunkés ces journées-là, je ne me suis pas ostiné. C'est justement ce que vous avez fait ces journées-là, vous ne nous avez pas ostinés, vous nous avez reçus, vous avez été respectueux, puis nous autres, on a été irrespectueux. Mais il y a 6 personnes là-dedans qui ont commencé à remettre en question à partir de ce moment-là leur croyance, là, que tout le monde, par exemple, les méprisait. Nous, on a fait tout sauf les mépriser cette journée-là. Et cette petite graine-là a cheminé avec certains individus. Et certains individus, ensuite, on a continué de les suivre pendant un certain temps, de faire une espèce d'accompagnement pédagogique. Il y en a qui sont complètement sortis de tout ça aujourd'hui, qui ont fait des études, puis qui ne sont plus du tout là-dedans. Il y en a d'autres qui ont rechuté.
Le respect, la compassion, l'écoute, ce sont toutes des valeurs qui pèsent dans la balance lorsqu'on veut entrer en dialogue avec des personnes qui ont des croyances alternatives au discours scientifique. Chez Gabvie, Joseph Jean-Gilles a toujours eu cette approche avec les communautés religieuses. Il nous en a parlé lors de notre passage dans leur bureau.
Nous desservons une communauté où la question de la foi, la question de religion est très, très présente. Ça ne sert à rien de perdre l'énergie, à leur dire qu'ils sont dans l'erreur, etc., etc. Mais il faut travailler avec eux, tout en respectant la foi des gens. Donc c'est ça qu'on a réussi à faire dans le cadre de notre programme pour une réponse interreligieuse au SIDA dans les communautés haïtiennes et africaines. La première démarche qu'on a eu à faire, c'était de consulter les bénéficiaires qui nous parlaient au départ de comment le VIH est abordé dans les églises. On nous disait que très souvent, le pasteur va faire son sermon. Et par exemple, dans une situation qui est grave, on va considérer certains types de péchés comme le sida. Vous allez mourir, etc. Le VIH, c'est une punition divine. C'est parce qu'on fait quelque chose, on doit payer pour. Donc, à partir de ce moment-là, on doit se mettre à l'évidence que oui, on ne perd pas d'énergie à démentir, mais vraiment, certaines, à accompagner les gens. En deuxième étape, avec leur autorisation, on a rencontré un petit groupe de pasteurs pour leur dire voilà l'état de la situation dans votre église, etc. Eux, on s'est entendu que la parole de l'église, ils sont d'accord avec nous, la parole de l'église, c'est une parole de compassion. Pourquoi ne pas travailler sur ces aspects de la compassion comme Jésus l'a fait dans certaines circonstances, comme Dieu l'aurait fait? Les gens sont tombés d'accord avec nous. On dit, bien, on a des points de rencontre, on peut travailler sur cette base-là, on peut faire une alliance thérapeutique à cette base-là. On va dire que si vous croyez en Dieu, et vous dites que les médicaments du médecin ne sont pas bons, mais si vous croyez en Dieu, c'est Dieu qui donne ce pouvoir aux médecins. Là, on parle dans leur jargon. On parle dans le jargon des gens. C'est dans ce sens que je dis, on a fait des alliances avec l'Église en respectant, la première chose qu'il faut faire, c'est de respecter la valeur des autres. La valeur de l'Église aussi, il faut les respecter. On va respecter leurs valeurs, on pourra avancer.
Le but, c'est de ne pas briser le lien thérapeutique, dans le fond. Parce que si la personne te raconte, dans le fond, qu'elle a arrêté son traitement, tout ça, bien, elle, ça veut dire qu'elle te fait confiance pour dévoiler ça. Et puis, c'est de continuer de faire le suivi pour voir un peu l'évolution de sa pensée sur le traitement. Donc, les approches à éviter, il faut éviter d'être en confrontation là, avec la personne. Donc, juste accepter que les croyances ou peu importe de la personne, ce soit ça. Ça peut être difficile quand même parce que comme scientifique puis comme clinicien, on a tous ces patients qui prennent leur traitement puis qui réussissent à avoir une vie normale, avoir des bébés, etc. Puis, je veux dire, comme être devant un patient qui ne refuse de se faire traiter, t'sais, ça peut être confrontant, justement, mais il faut mettre un peu de côté la partie « mais je le sais, ce qu'il te faut », puis essayer de mieux comprendre les raisons là, qui poussent le patient à arrêter le traitement.
Dans notre société, on a de grosses lacunes au niveau de l'éducation scientifique. Souvent, les médias publiaient des articles scientifiques, par exemple, d'une revue prestigieuse comme Nature, mais publiaient ce qu'on appelle des pré-papiers, des pré-articles, c'est-à-dire qui n'ont pas été évalués par des pairs encore. Ils nous présentaient ça dans les médias comme « c'est ça ». Puis là, quand l'article, je ne sais pas, était refusé ou que ça changeait 3 mois plus tard, bien ça, ça fait douter beaucoup de gens parce que la science avait l'air de tergiverser, alors que la science ne tergiverse pas. La problématique, c'est que entre le temps que la science utilise pour évoluer et le temps que l'actualité utilise pour évoluer n'est pas le même temps. La science, c'est beaucoup plus long. Mais là, les journalistes veulent savoir tout de suite c'est quoi le résultat de la recherche. Et pour les médicaments, pour les vaccins, on l'a vu beaucoup ça, pendant la pandémie, à cause de l'urgence sanitaire, on nous parlait d'articles qui n'avaient pas été encore publiés dans les revues ou qui étaient publiés, mais sans évaluation encore. Ça donnait une image négative de la science. Et je pense qu'au niveau de l'éducation populaire, s'il y a une chose qu'on a à faire, par exemple, c'est l'éducation scientifique. Tu n'as pas besoin d'aller à l'école pour savoir c'est quoi un article scientifique. Moi, je montre à mes étudiants en première année de DEC, là, tu vas en faire une vraie recherche sur Internet, va voir si l'article a été évalué dans une revue savante qui a un certain sérieux. Et y a-tu un comité de lecture? C'est-tu des profs d'université? Puis l'article, as-tu été évalué par 3 spécialistes? Minimum. Tu n'as pas besoin d'être un spécialiste. Comme moi, je ne suis pas un spécialiste là, en médecine. Je fais confiance parce que je sais que c'est des revues évaluées par les pairs. Il est là le problème, c'est qu'en ce moment, on ne fait pas la différence entre un article scientifique et un article non scientifique, une source scientifique et une source non scientifique.
Mais comment savoir si la science en elle-même est fiable? Un philosophe du nom de Karl Popper s'est posé la question. Durant sa vie au début du 20e siècle, il a été témoin de la naissance de plusieurs théories scientifiques occidentales. Pensons à la théorie de la relativité d'Einstein ou bien à la naissance du domaine de la psychologie. Il s'est alors rendu compte que les théories n'avaient pas toutes la même valeur scientifique. Il a donc jugé important de faire la distinction entre la science et la pseudo-science. Pour le comprendre, il a fait un travail sur la nature de la connaissance et les meilleurs procédés pour arriver à ce qui est le plus proche de la vérité. Si on revient à la base de ce qu'est la science, on sait qu'elle se fonde sur l'observation des phénomènes. Par exemple, si on regarde un lac avec des cygnes et qu'on observe qu'ils ont tous la couleur blanche, on aura tendance à affirmer que tous les cygnes sont blancs. Mais si on base notre conclusion sur un seul lieu où tous les cygnes sont blancs, on ne verra peut-être pas qu'il existe aussi des cygnes de couleur noire. L'humain est limité et il n'observe que partiellement les éléments qui l'entourent. L'humain a toutes sortes d'embûches qui l'empêchent de s'approcher de la neutralité. Il est influencé par ce qu'il choisit de voir, par ses croyances et ses idées préconçues. Ça fait en sorte qu'il est impossible d'avoir des certitudes. Le philosophe a donc réfléchi sur les meilleurs moyens de se rapprocher de la vérité lorsqu'on teste une théorie scientifique. Selon Karl Popper, il y a une distinction à faire entre la science et la pseudo-science. Selon lui, la méthode scientifique cherche à infirmer une théorie, alors que la pseudo-science cherche à confirmer une théorie. C'est beaucoup plus facile de chercher à confirmer une théorie que de chercher à l'infirmer. Par exemple, si une personne est convaincue que le Père Noël existe et qu'elle veut faire des recherches pour le confirmer, elle aura plus tendance à chercher des évidences. Les cadeaux en dessous du sapin ou la présence du Père Noël dans les centres d'achat seraient alors des preuves. Mais si, au contraire, pour vérifier sa théorie, la personne cherchait des évidences que le Père Noël n'existe pas et qu'elle découvrait que c'est une autre personne qui met les cadeaux en dessous du sapin, elle devrait alors abandonner l'hypothèse de l'existence du Père Noël. En gros, si on veut qu'une théorie soit acceptable, on doit être prêt à la tester et à la retester, chercher des preuves pour la contredire, être prêt à l'abandonner et passer à autre chose si on a la preuve qu'elle n'est pas véridique.
Les efforts, c'est d'abord un effort de vulgarisation, hein, parce que des fois, c'est très complexe. Quand un médecin parle, bien que de nos jours, on peut dire qu'il y a eu beaucoup de progrès dans le domaine du VIH, surtout à cause du militantisme qu'ont joué les personnes vivant avec le VIH. Et aujourd'hui même, on voit beaucoup, beaucoup plus de médecins qui sont à l'écoute des bénéficiaires, des personnes vivant avec le VIH, à tel point qu'ici à Montréal, on a des comités de patients experts qui échangent régulièrement avec les médecins. Ça veut dire qu'on est rendu assez loin à ce niveau-là. Et on est chanceux aussi d'avoir des médecins spécialistes du VIH aussi, qui sont conscients qu'il y a un défi à court et à long terme à relever. Et puis, ils partagent avec nous aussi les connaissances en donnant des conférences aux bénéficiaires, en donnant des conférences dans nos organismes. C'est en ce sens que je dis oui, il y a des choses intéressantes qui se font au niveau médical.
Le médecin en tant que tel ou l'institution de santé, dès qu'il met la personne atteinte de VIH en confiance, parce que si cette personne-là ne se sent pas stigmatisée et il a les informations claires, parce qu'on s'entend, dès qu'il n'a pas l'information, c'est la panique totale. Et tout autant qu'il peut trouver un médecin qui va le rassurer, qui va lui dire, écoutez, on va prendre des médicaments, on va se voir sur une base régulière, établir ce lien de confiance, c'est super important. Et la personne aussi qui sait que, d'un point de vue confidentialité, ne sera pas jugée, que ses affaires ne seront pas divulguées partout, cette personne-là va être en confiance. L'information, c'est quelque chose de super important, mais il y a aussi le côté humain qu'il faut mettre, cette empathie qu'on met et comprendre que cette personne est un peu perdue dans une maladie qu'il ne connaît pas. Donc, vraiment, l'accompagner, c'est comme un enfant. Tu l'accompagnes à l'école, tu l'emmènes jusqu'à la maîtresse. Donc, c'est la même chose pour quelqu'un qui apprend qu'il a ce genre de maladie et qui est totalement désemparé face à une situation de ce genre. Donc, la meilleure chose à faire, c'est être clair, être précis avec cette personne, lui donner les informations, mais aussi parler son langage aussi. C'est important que la personne se sente pas un supérieur par rapport à quelqu'un, mais quelqu'un qui est là pour lui donner une information et qui est là pour l'aider et lui faire voir clair.
Well, some of these diseases come with stigma.
Certaines de ces maladies sont très stigmatisées. Cette stigmatisation contribue également à briser la confiance entre les gens marginalisés et les institutions essayant de leur venir en aide. Il y a aussi de la stigmatisation dans le milieu de la santé, au sein de la communauté et même au sein de nos familles. Nous devons donc examiner la discrimination sous plusieurs niveaux, que ce soit dans notre famille, dans nos écoles, au travail, dans notre société et même au niveau global. Nous devons sérieusement aborder ces enjeux. Afin de gagner la confiance des communautés, la santé publique ainsi que les autres instances gouvernementales doivent reconnaître ouvertement l'origine des croyances conspirationnistes dans le contexte de la discrimination historique. Nous avons vu que beaucoup de travail a été mis en place pour essayer d'apporter des services culturellement appropriés au sein des communautés autochtones ou au sein des communautés africaines, caribéennes et noires. Mais il y a encore plus à faire en termes de guérison. Il faut aussi adapter notre approche afin d'offrir les services appropriés aux communautés. Il faut également directement s'attaquer aux problèmes du racisme, du colonialisme, de l'homophobie et de la transphobie parce qu'ils empêchent les gens d'accéder aux services nécessaires. Ce ne sont donc pas seulement les ressources financières dont nous avons besoin. Ça prend aussi toute une communauté pour s'interroger. Lorsque l'on voit des gens avoir un certain comportement, qu'est-ce qui aurait pu provoquer ce dernier? Où et comment est-il apparu?
Pour combattre la désinformation à la base, il faut prendre le temps de s'observer et évaluer comment la gestion des épidémies affecte les personnes concernées par celles-ci. Il faut analyser le narratif qui se crée, se demander si ce narratif contribue de façon positive à l'accès aux services dont les personnes ont besoin. Le VIH, depuis son apparition, a fait émerger d'autres problèmes qui étaient déjà présents. En intervenant avec des personnes qui remettraient en question son traitement, il est important de comprendre le contexte dans lequel une personne se situe. Plus largement, comment les inégalités, les discriminations et les autres obstacles peuvent jouer un rôle dans les croyances.
Je rêve du jour où nous serons en mesure de fermer GAPVIE dans la mesure où il n'y a plus de cas de VIH ni de sida dans notre communauté. Donc, à quoi ça sert et GAPVIE? Bon, c'est sûr que avec la pandémie de la COVID, on disait ben, une chance qu'on avait eu le VIH parce que notre expertise du VIH nous a permis de foncer dans la question de la COVID, dans la prise en charge des personnes vivant avec le VIH. Donc, c'est en ce sens que je dis oui. Il faut regarder vraiment comment accompagner nos populations vulnérables face à toute épidémie émergente.
En 1989, Montréal accueille la 5e conférence internationale sur le sida. Environ 300 activistes s'emparent de la scène pendant la cérémonie d'ouverture pour présenter le Manifeste de Montréal. Ce manifeste énonce les responsabilités de tous les États, de tous les organismes internationaux, de tout le personnel des soins de santé et des corporations multinationales à l'égard des droits des personnes vivant avec le VIH. On y exige notamment la participation active des communautés affectées par le VIH dans la prise de décision qui les concerne. On demande à ce que les États soient informés que le VIH n'est pas facilement transmissible et que les craintes irrationnelles sur la transmission soient combattues. On demande à ce que l'accès au traitement soit garanti, que les soins médicaux soient de qualité, tenant compte du fait que la pauvreté est fortement corrélée à l'infection. On fait appel aux nations industrialisées pour créer un fonds international de coopération capable d'aider les pays à investir dans les services sociaux, médicaux et sanitaires. On demande la création de programmes d'éducation sexuelle présentant les renseignements les plus complets, de manière respectueuse des diverses orientations sexuelles et cultures. À l'occasion du retour de la Conférence internationale sur le sida à Montréal en 2022, les 34 organismes membres de la Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le sida, la COXIDA, ont publié une nouvelle version du texte, le Manifeste de Montréal 2022. Cette édition révisée rappelle que plutôt qu'un manque de connaissances scientifiques, c'est aujourd'hui le manque de ressources, la stigmatisation et les discriminations qui empêchent les personnes d'accéder à la prévention et aux soins requis au maintien de leur santé. Il est donc aujourd'hui impératif d'agir afin d'éliminer ces obstacles à la lutte contre les épidémies de VIH. Les théories du complot naissent de la peur, de l'inconnu, d'un manque d'éducation ou de la transmission de mauvaises informations. Ces enjeux ont souvent pour cause l'inaction politique, la couverture médiatique biaisée ou maladroite, ou tout simplement la haine de la différence. Très souvent, les conspirations sont un symptôme d'expériences négatives avec la société. La prochaine fois que vous entendrez un discours conspirationniste, questionnez-vous sur ce qui a pu amener la personne à y croire. Vous y découvrirez peut-être des raisons plus profondes qu'un simple refus de certaines normes. Se remémorer l'histoire des épidémies de VIH-SIDA, sensibiliser au sujet des dérives passées et actuelles dans toute leur complexité, c'est prendre conscience du contexte dans lequel émergent les infections et de réfléchir à la nature sociale des maladies. C'est la manière dont on traite nos malades et dont on prévient les infections qui parlent réellement de qui nous sommes en tant que société. Une catastrophe sanitaire comme celle du VIH-SIDA, en dépit de son caractère tragique, est néanmoins une opportunité d'apprentissage, une opportunité de jeter un regard nouveau sur les défis qui attendent l'humanité. Ce podcast est une production du portail VIH-SIDA du Québec et une réalisation de Justine Massicotte. La musique d'introduction et de conclusion a été produite par Laure Brisson. Le mixage sonore par Justine Massicotte et Laure Brisson. Un merci tout spécial à Stella Gassirabo pour son soutien à la traduction et au doublage. L'image originale du balado est une création de Rena Jamaledine. Nous tenons à remercier Patrice Saint-Amour, Nancy Petinicchio et Marianne Nguemensa pour leur soutien. Merci à Fierté Montréal et Les Trois Sexes pour nous avoir prêté leurs locaux d'enregistrement. Merci à Vive Healthcare et Gilead qui nous ont aidés à financer ce projet. Et surtout, merci aux invités qui ont généreusement accepté de participer au projet. René Légaré, Joseph Jean-Gilles, Jacques Pépin, Marvelous Mutchenge, Sophie Prophète, Martin Geoffroy et Marie-Mé Chrysostome. Je suis Guillaume Tremblay-Galland. En mon nom personnel et en celui de l'équipe du Portail, merci de votre écoute. Si vous avez aimé ce balado, encouragez-nous en le partageant avec vos proches.